VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Coup d'envoi ce mardi du débat de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. 193 chefs d'État et de gouvernement y sont représentés. C'est la première fois que le président américain Donald Trump prend part à la grand-messe onusienne sur son agenda, la réforme de l'ONU. Jacques Aristide.
Donald Trump a déjà donné le ton hier, à la veille de sa toute première intervention à la tribune des Nations unies. Pour lui, l'ONU doit se concentrer plus sur les gens et moins sur la bureaucratie. C'était lors de l'adoption par 126 pays d'une déclaration politique en 10 points en faveur de la réforme de l'organisation. Il s'agit d'une initiative américaine. Réaction du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a promis que son organisation allait faire davantage pour les peuples et moins sur les procédures. L'objectif précisé dans la déclaration finale est de rendre plus efficace et performante l'organisation souvent taxée de lourdeurs administratives coûteuses. Le président américain veut voir les coûts de l'ONU fortement réduits. Washington est son premier contributeur financier, assurant notamment une bonne partie des 7,3 milliards de dollars du budget des opérations de paix. Prêt à faire des économies, Antonio Guterres a toutefois mis en garde contre le risque de saper l'efficacité des missions de paix menées pour la plupart en Afrique.
Les deux figures de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ont demandé une transition sans le président Joseph Kabila pour préparer des élections en République démocratique du Congo. Dans leur communiqué, M. Tshisekedi et Katumbi pointent la responsabilité de M. Kabila dans le non-respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoyait des élections d'ici décembre 2017. Par ailleurs, les Nations Unies se penchent aujourd'hui sur l'impasse politique en RDC. Lors d'une réunion à New York prévue en marge de l'Assemblée générale, la réunion onusienne, d'après l'AFP, doit se tenir à huis clos sous la présidence du secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix afin d'ouvrir la voie à des élections crédibles. L'initiative entend favoriser une meilleure coordination des efforts internationaux, régionaux et sous-régionaux pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Le groupe d'études sur le Congo vient de publier un rapport sur les tueries massives dans le territoire de Beni en RDC. Les massacres ont fait au moins 800 morts et plus de 180 000 blessés déplacés depuis le début de la principale vague de violence en octobre 2014. Jason Stearns, le directeur du GIEC, dénonce et accuse.
Pour moi, la violence autour de Beni illustre la complexité et le cynisme du conflit congolais. Des massacres ont été lancés par les insurgés congolais en collaboration avec les chefs locaux. Mais au lieu de démanteler ces réseaux, des officiers de l'armée nationale ont décidé de les coopter et d'intensifier la violence. Pour moi, c'est quand même très cynique. Ce qui me marque aussi, c'est l'insuffisance des réponses à cette violence et du côté congolais et du côté des Nations Unies. Il faut souligner que pendant tout ce temps-là, pendant la grande partie de ce temps-là, la mission de maintien de la paix des Nations Unies avait fourni un soutien musclé à l'armée congolaise. Et donc, ça démontre la manque de compréhension de la mission des Nations Unies et ça montre aussi l'insuffisance des autorités congolaises pour traiter ce problème.
Jason Stearns, directeur du groupe d'études sur le Congo. Les présidents français et rwandais Emmanuel Macron et Paul Kagame se sont entretenus à New York hier en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, une rencontre peu courante entre les dirigeants des deux pays dont les relations sont empoisonnées par le génocide rwandais de 1994. La présidence rwandaise a indiqué dans un tweet que les deux hommes ont discuté de collaboration sur des questions d'intérêt mutuel, dont la paix et la sécurité en Afrique. Le Rwanda accuse depuis des années la France, à l'époque soutien du régime extrémiste Hutu rwandais à l'origine du génocide de 1994, de participation aux massacres qui ont fait en à peine 100 jours, à partir d'avril 1994, environ 800 000 morts essentiellement parmi la minorité Tutsi. La fête annuelle des éleveurs du Niger, la cure salée, s'est tenue ce week-end à Ngal, dans la région d'Agadez. Ngal, une localité au bord du désert à près de 1000 km de Niamey, la capitale, sert en effet chaque année à la mi-septembre de lieu de regroupement des pasteurs des différentes contrées du pays. les moments forts de cette fête dans ce reportage signé Abdul Razak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
Pas trop loin de la tribune officielle dressée pour le cérémonial d'ouverture se trouve le camp des éleveurs venus à la fête de cette année, la 53e édition de la cure salée. Quelques animaux traînent encore le pas, la majorité étant déjà partie paître dans la vallée de l'Irazer, connue pour sa végétation herbacée et ses sources d'eau riches en sels minéraux. Les éleveurs pasteurs ayant quitté le sud du pays pour cause du début de la saison des cultures hivernales se retrouve ainsi chaque année dans ces plaines du Nord. Medaji Nwol, patriarche natif de Ingal, rappelle l'historique de cette cure salée.
Avant même que les cas ne s'appliquent, avant l'indépendance, les éleveurs, c'est des manifestations entre eux. Vous savez bien qu'au sud, là, il y a trop d'éleveurs. Les zones pastorales, ils viennent à Ingal. Donc ceux qui viennent à Ingal, ils ont des terroirs d'attache. Ils choisissent Ingal parce que le pâturage salé, c'est ce qui amène les animaux ici. Dans le temps, c'est 3 mois. Les grandes endémies, ils viennent ici, ils font 3 mois à additionner la brousse. Les services d'élevage aussi. Il y a beaucoup de services qui arrivent au niveau central. Et ils font toutes les activités. Il y a la vaccination, il y a la santé humaine, il y a la sensibilisation, le message de l'État vers la population. Et les populations, leur message vers l'État. Les administrateurs et les administrés discutent ensemble.
Depuis, la rencontre s'est modernisée et a pris un caractère beaucoup plus officiel, sans toutefois perdre son côté festif à l'image des défilés et concours de beauté, concours de meilleurs chameaux harnachés et de meilleurs dresseurs de chameaux, ou encore les fantasias et autres compétitions. Une vraie ambiance.
La fête cette année a été extraordinaire. Les images se passent de tout commentaire. Et je crois que c'est la bénédiction de Dieu. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas fêté de cette manière.
Je suis très content d'être là.
Vous êtes venu d'où?
Moi, je suis venu à Dagadez. Par rapport à ce genre de festivités, nous voulons vraiment que les touristes reviennent. Il faut que cette zone rouge là,
pour le chef du gouvernement nigérien, Brigida Fini, qui est aussi originaire de la zone, la principale leçon qu'il faut tirer de cette édition de la cure salée est l'adhésion visible des populations aux idéaux de la paix et de la sécurité.
L'esprit est exceptionnel. J'ai vu des populations, ça se lit dans leur visage, qu'elles adhèrent aux idéaux qui sont ceux de la paix et de la sécurité. Et ceci, ce n'est pas par hasard si le thème de cette année, c'est le pastoralisme et la paix. Le lien qu'il y a entre les deux est très fort. Si les pasteurs sont d'accord, si les pasteurs adhèrent, vous êtes sûr que nous aurons toute la stabilité dans cette zone.
La fête finie en apothéose sous les belles chansons des femmes touareg, les troupeaux de bétail ayant fait le plein à sel minéraux peuvent à présent redescendre au sud où, après les cultures, les paysans commencent à libérer les champs. Abdelrazak Idrissa, de retour de Ingal pour les rois africains.
Voilà, ici à Washington, il est 7h08.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a assuré aujourd'hui que la Birmanie était prête à organiser le retour de plus de 410 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh voisin, se disant profondément désolé pour les civils qui se sont retrouvés pris au piège de la crise. Nous sommes prêts à débuter la vérification des identités des réfugiés en vue de leur retour, a-t-elle déclaré dans un discours télévisé. Des milliers de personnes ont suivi dans les rues du pays, sur des écrans géants, le discours de la dirigeante, muni de petits drapeaux birmans et de pancartes affichant leur soutien à celle qui reste une icône dans son pays. Et puis, au moins 3 personnes ont été tuées et 34 blessées ce mardi au nord de Bagdad lors d'une double attaque suicide contre un restaurant fréquenté par les membres des forces paramilitaires combattant les djihadistes, ont indiqué des sources de sécurité. 2 assaillants ont déclenché leur ceinture d'explosifs dans un restaurant. Un troisième assaillant a été abattu par les forces de l'ordre, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Hadjadj se trouve à 200 km au nord de Bagdad, en Tikrit et Badji. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera accompagné de Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.